N'allons pas ce matin beaucoup nous attarder sur l'Apocalypse, puisque nous en avons déjà pas mal parlé, mais vous avez remarqué que nous sommes passés du chapitre 5 directement au chapitre 19. D'habitude, nous lisons le livre biblique de manière complète, mais là, j'ai fait le choix de sauter tous ces chapitres pour les résumer ce matin, peut-être. Nous avons notre monde qui avance. Et au fur et à mesure où notre monde avance, les techniques augmentent, la science augmente, les moyens de communiquer et de dominer s'accroissent. Les moyens de détruire aussi et de faire la guerre, les moyens de contrôler les populations. Je lisais cette semaine un article sur les contrôles assez insoupçonnés qu'il y a en Chine. Ça interpelle, hein. Et ce monde, dit la parole de Dieu, va évoluer vers sa triste apogée. Sa triste apogée de ce que l'homme au pouvoir est capable de faire. Au contraire, de lorsque c'est Dieu qui règne et que Christ, le roi des rois, règnera. Et ceux qui d'entre nous ont donné leur cœur à Jésus-Christ, leur vie pour lui appartenir, nous aspirons à ce temps où l'injustice sera punie, à ce temps où le monde tel qu'il est aujourd'hui, avec le pouvoir de l'argent, des puissants, d'une part, mais avec la recherche aussi de toute une débauche qui donne lieu à des trafics incroyables d'êtres humains dans la prostitution, ou des trafics incroyables de drogue, tout ça pour passer. Voilà. Toutes ces choses qui font de notre monde un monde compliqué, y compris ici. Jusqu'à juste voir là où je travaille, ces sujets sont d'actualité tout le temps. Et nous ne sommes pas dans certaines parties du monde. On est heureux d'habiter ici. Pour ne pas voir des tas d'horreurs qui se commettent. Et pourtant, voilà, notre monde avance. Et si nous faisons confiance à la parole prophétique, parce que nous attendons un petit peu le dénouement de ce monde où Satan, dont Satan est le prince. Eh bien, si nous faisons confiance à la parole prophétique, il va y avoir un temps où l'on arrivera à une sorte de super dictateur qui s'alliera avec 10 rois, 10 présidents peut-être, hein. Nous avons les États-Unis certainement, nous avons l'Union Européenne certainement, nous avons la Chine, nous avons l'Inde, tous ces grands blocs, nous avons la Russie, qui porteront certainement d'autres noms peut-être, hein. Mais ces grands blocs géopolitiques et qui, avec un visage séducteur, va proposer la paix, la sécurité, la prospérité, alors que parallèlement, il mettra en place un système de répression, de contrôle, de dictature de la pensée, de dictature religieuse également. et persécutera et fera bien des martyrs parmi ceux qui ne veulent pas lui prêter allégeance. Et dans ce temps-là, nous avons donc, avant le coup de départ, l'Église qui est enlevée et qui est avec Christ au ciel. Il y a donc ce qui se passe au ciel et il y a ce qui se passe sur la terre. Nous allons très rapidement passer sur tous les chapitres que nous n'avons pas lus. On s'en était arrêté au chapitre 5 et dès le chapitre 6, c'est l'agneau qui ouvre le premier sceau. Vous vous souvenez de ce livre scellé de 7 sceaux et nul n'était trouvé digne d'en ouvrir les sceaux. Mais un ange dit à Jean, ne pleure pas, voici le lion de Juda a vaincu pour ouvrir les sceaux. Et il voit là comme un agneau immolé. Et l'agneau ouvre donc le premier sceau. Les sceaux de ce livre sont les jugements qui s'abattent sur la terre. En même temps, des occasions de se repentir. Il y a des guerres, famines, la mort, des catastrophes. Le septième sceau ouvre, c'est le sceau des trompettes. Les trompettes, là également, grêle de feu et de sang, un tiers de la terre qui est brûlée. Un tiers de la mer en sang, un tiers des sources qui deviennent amères, l'assombrissement d'un tiers du soleil, et puis les démons qui sortent de l'abîme, Satan lui-même qui s'incarne et vient sur la terre aux côtés de l'Antichrist. Et puis, une guerre de 200 millions de soldats, un tiers de l'humanité qui meurt. Et puis, viennent les sept coupes. Donc, dans l'Apocalypse, nous avons ce défilé, les sept sceaux. Le septième, c'est les sept trompettes, qui sont à chaque fois des jugements. Et puis, les sept coupes. La mer en sang, les ulcères, la chaleur terrible. Et puis nous arrivons au chapitre 17 et 18 à Babylone. Alors qu'est-ce que c'est que Babylone ? Babylone, la nouvelle Babylone, la grande Babylone, c'est cette capitale de l'Antichrist, cette capitale de ce dictateur mondial, capitale autant économique que politique. Que religieuse. Une extraordinaire ville, une ville pleine de luxe, pleine de tout ce qui se fait de mieux. Là, les milliardaires vont investir. C'est de là que tout part. Et Babylone, à elle seule, représente tout le mal du mal. De la même manière que si je vous dis Hollywood, vous pensez au cinéma, Las Vegas, le jeu, etc. Il y a des villes qui sont symboliques à elles-mêmes de quelque chose. Eh bien, la Grande Babylone, qui est appelée aussi la Grande Prostituée, elle symbolise, elle incarne vraiment la manière horrible dont les hommes vivent à cette époque, dont la terre est gouvernée à cette époque. Il y a bien sûr toute une partie de la population, une grande partie de la population, qui adhère, qui soutient. Ils ne soutiennent pas tout, mais ils soutiennent. Et d'ailleurs, en Apocalypse 9, Nous voyons la chose suivante. Alors que la sixième trompette est sonnée, qu'il y a des tas de gens qui souffrent et qui meurent. Au verset 20, il dit « Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de leurs mains. Ils ne cessèrent pas d'adorer les démons et les idoles d'or, d'argent, d'airain, de pierre et de bois qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leurs débauches, ni de leurs vols. » Nous avons à la fois dans ce temps de la tribulation ces fléaux qui s'abattent, mais en même temps cet appel à la repentance. Il va y avoir des hommes et des femmes qui jusqu'à présent ne s'étaient pas tournés vers Jésus-Christ et n'ont pas fait partie de l'Église enlevée, qui vont se tourner vers Jésus-Christ. Ce sont les martyrs de la tribulation qui, lorsqu'ils se tourneront vers Jésus-Christ, seront persécutés, parfois mis à mort. Il va y avoir des milliers d'hommes et de femmes qui, dans ces temps-là, vont réaliser l'existence de Dieu. Dieu n'est pas un mythe. Ils vont réaliser à quel point le mal n'est pas un mythe non plus, à quel point le péché n'est pas une notion un petit peu abstraite, surannée, dépassée. Non, le péché, ils vont le vivre au jour le jour. Et ils vont se tourner vers Jésus-Christ pour être sauvés. Mais une grande partie de la population va continuer devant les évidences à fermer son cœur à Dieu. Il est dit ailleurs même à blasphémer le nom de Dieu. Et continuer. Continuer dans une manière de vivre innommable. Desquels peut-être notre histoire nous a donné quelques aperçus. On a cité la Seconde Guerre mondiale, les camps de concentration, toutes les exactions plus près de nous. Nous avons eu toutes ces populations sous la coupe de Daesh. Et on peut continuer. Les exemples de ce que l'être humain est capable de mettre en place comme système politique et économique et religieux. Alors, nous arrivons donc à ce chapitre 19. Et je disais tout à l'heure, ce sont les quatre Alléluia. Et il était important pour comprendre ces quatre Alléluia de décrire un petit peu ce qu'il y avait dans ces sept sauts, sept trompettes, sept coupes, de décrire cette Babylone. Pourquoi ? Parce que Babylone, en une heure, vient d'être détruite. La capitale mondiale vient de tomber. De mémoire, une coalition des 10 rois contre l'Antichrist. Mais face à l'effondrement finalement économique, politique que la destruction de Babylone occasionne, finalement ils se rallient ensemble et nous arriverons au chapitre 19 à cette dernière bataille, celle d'Armageddon. Mais toujours est-il qu'à la destruction de Babylone, au ciel il se passe quelque chose. Il se passe des Alléluia. Et ce n'est pas anodin parce que dans tout le Nouveau Testament, il n'y a nulle part ailleurs d'Alléluia. Vous n'en trouverez pas dans les évangiles, vous n'en trouverez pas dans la bouche de Jésus, vous n'en trouverez pas dans la bouche de l'apôtre Paul. Nulle part un Alléluia n'est chanté, n'est proclamé. Les Alléluia que nous trouvons sont ceux de l'Ancien Testament, et en particulier ceux des psaumes. Et c'est un mot qui signifie louer l'Éternel, Alléluia. et que nous employons bien souvent, nous, à tour de bras. Alléluia, le Seigneur m'a... J'ai eu une augmentation. Mais oui. Alléluia, j'ai guéri de mon angine. Et nous pouvons chanter des Alléluia pour toutes sortes de bénédictions que nous recevons de la part de Dieu. Et c'est une bonne chose que nous soyons dans la reconnaissance. Le Seigneur nous dit, soyez reconnaissants. Faites monter des actions de grâce. Des actions de grâce, des prières de merci. Mais des Alléluia, dans le Nouveau Testament, nous n'en trouvons pas. En dehors de ce moment si solennel, lorsque nous arrivons à la fin finalement de l'histoire de notre humanité, cet apogée terrible, pleine de sciences et techniques qui contrôlent, une méga-société qui peut vous contrôler avec une simple puce sur le front, en tout cas le nombre hein, de la bête, sans lequel on ne peut plus ni acheter, ni vendre, ni quoi que ce soit. On n'est plus rien si on vous bloque. Et bien là au ciel, les deux premiers Alléluia, regardons à quelle occasion ils sont proclamés et lancés. Apocalypse 19. Après cela, j'entendis dans le ciel comme la voix forte d'une foule nombreuse qui disait « Alléluia ! Le salut, la gloire et la puissance sont à notre Dieu parce que ses jugements sont véritables et justes. Car il a jugé la grande prostituée qui corrompait la terre par sa débauche et il a vengé le sang de ses serviteurs en le redemandant de sa main. Et ils dirent une seconde fois « Alléluia !» Et sa fumée monte au siècle des siècles. Moi, j'avoue que je suis surpris, hein. Moi, je ne m'attendais pas à ce que le « Alléluia » et le deuxième « Alléluia » du Nouveau Testament, il se fasse parce que Dieu vient de juger, de châtier et de redemander le sang en détruisant Babylone. Je ne m'attendais pas à ce que le « Alléluia » soit parce que les jugements de Dieu sont justes et véritables. Et peut-être cela doit-il orienter nos cœurs et notre louange. Nous lançons et chantons des « Alléluia » pour des actions de grâce. Mais quel est notre regard sur le fait que Dieu est celui qui juge et qui juge de manière vraie et qui juge de manière juste et qui met en œuvre son jugement. Et au ciel éclate. Alléluia. Nous avons du mal à comprendre, à réaliser le mal du mal. C'est mal, mais... Bon, oui, c'est pas bien. C'est mal. Combien il nous est difficile d'être profondément touché, attristé, horrifié, indigné par le mal du mal, par son côté abject, repoussant, terrifiant. Il a du mal à nous terrifier en nous-mêmes. Nous avons du mal à poser le regard de Dieu sur le mal du péché, sur le saccage qu'il produit. Et pourquoi est-ce que le « Alléluia » éclate ? Mais parce que voilà des millénaires que le mal est entré dans le monde. et qu'il tient les hommes sous sa servitude. Et que notre société, jour après jour, se débat contre le mal. Tous les jours, au travail, je vous garantis que je règle des histoires d'enfants, ça part d'un ballon de foot. Tous les jours, vous voyez le mal du mal. Un ballon de foot, c'est pas qu'un ballon de foot. C'est des gitans contre des maghrébins. C'est le racisme. C'est comment on nargue parce qu'on a gagné. Comment on insulte. Et ça se finit bien sûr en bagarre. Tout le temps. C'est usant. C'est fatigant. Le péché devrait nous user et nous fatiguer. Est-ce qu'on aspire à être débarrassé de cette usure du péché dans nos vies? Et on peut chanter Alléluia en pensant au jugement de Dieu sur le mal. D'abord sur le mal qui me concerne. Oui, nous pouvons chanter Alléluia parce que Dieu nous a jugés pour nos péchés. Nos péchés ont été jugés. Et notre Alléluia est tout particulier parce que ce jugement sur notre péché, c'est Christ qui l'a subi, c'est Christ qui l'a porté. Amen. Et nous avons ce jugement de Dieu qui est juste et véritable et qui offre aux coupables un jugement porté par quelqu'un d'autre à sa place. Jusque dans l'Apocalypse, jusqu'à toutes ces personnes qui, hélas, l'avons-nous lu, ne se repentent pas et continuent sur le même chemin. Est-ce que notre cœur a envie de chanter et de rendre gloire à Dieu, loué soit l'Éternel ? Lorsque nous voyons ces jugements qui s'accomplissent. Non pas parce qu'on est content, parce qu'il nous a vengé de notre voisin bien embêtant qui n'arrête pas de nous mettre des bâtons dans les roues, que sais-je. Il ne s'agit pas de cette espèce de réjouissance un petit peu vengeresse. Le Seigneur dit « À moi la vengeance et la rétribution, ne te réjouis pas de la chute de ton ennemi. » Non, il s'agit du fait que le Seigneur nous a dit lui-même quand il était sur la terre « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice. » Et le Alléluia, il est là pour la justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Est-ce que nous avons cette soif de justice? Soif de justice en nous. Christ est ma justice. Et il me permet de vivre d'une manière juste devant mon Créateur. Est-ce que j'y tiens plus que tout? Est-ce que quand j'ai des victoires sur le péché, là je crie Alléluia. Ou est-ce que c'est parce que j'ai eu une augmentation de salaire? Vous voyez, ce n'est pas les mêmes choses. Hein. Ce n'est pas du tout les mêmes raisons. Et nous avons besoin de nous questionner, qu'est-ce qui me procure le plus de joie? Est-ce que lorsque je vois un frère et une sœur qui a passé un cap spirituel, qui a mis de côté derrière lui un péché particulier dans sa vie, qui s'est engagé dans l'obéissance au Seigneur. Est-ce que je chante Alléluia? Est-ce que l'Église chante Alléluia? Ou est-ce que parce que nous avons reçu peut-être un don de 50 000 euros, très bien, faites-les. Hein. Mais est-ce que c'est ça qui nous pousse plutôt aux Alléluia, hein? C'est un exemple. Et à nous de peser vraiment qu'est-ce qui va faire chanter notre cœur. Pour que notre cœur chante Alléluia face aux jugements de Dieu qui sont véritables et justes, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. D'abord sa justice en moi, puis sa justice dans mes frères et sœurs, dans l'Église. Lorsqu'une âme se tourne vers Dieu, se convertit, il y a plus de joie au ciel. Oui ? Est-ce qu'il y en a dans mon âme ? Et à la perspective de la fin de ce triste monde, je ne sais pas quel mot trouver d'autre, mais quel triste monde. Et quel triste monde il va devenir de plus en plus. Seigneur, ne nous oriente absolument pas vers l'espérance d'un monde qui va s'améliorer et se bonifier. On aura peut-être l'impression, mais ça ne sera absolument pas le cas, et ça sera terrible. Le cœur humain tel qu'il est, sans Dieu, va pouvoir s'exprimer dans toute sa méchanceté, dans tout ce que Dieu n'est pas. Et lui est perfection, pas nous. Alors, voyons maintenant les deux autres Alléluia. Et nous terminerons là. Les 24 vieillards, verset 4, les 24 vieillards et les 4 êtres vivants se prosternèrent et adorèrent Dieu assis sur le trône en disant « Amen !» Alléluia. Et une voix sortit du trône disant « Louez notre Dieu, vous tous ses serviteurs, vous qu'il craignez, petits et grands. » Et j'entendis comme la voix d'une foule nombreuse, comme un bruit de grosses eaux et comme un bruit de forts coups de tonnerre disant « Alléluia !» Car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. Réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Voilà les troisième et quatrième Alléluia. Et ils sont là parce que notre Dieu est entré dans son règne. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Le royaume de Dieu et sa justice. Et voilà nos quatre Alléluia du Nouveau Testament. Oh, nous chantons souvent « Christ est roi, Christ est roi ». Est-il le roi de ma vie ? Est-ce qu'il dirige réellement mon agenda quotidien ? Suis-je à ses ordres ? Est-ce que je recherche ses lois, comme diraient les psalmistes ? Les lois du roi ? Notre monde a ses lois, notre monde a ses règles, notre monde a ses valeurs, sa pensée, et elle dicte. Il y a souvent un diktat des valeurs du monde, comme il n'en sera jamais été aussi fort dans l'histoire du monde que dans la tribulation. Domination de la comment penser, comment vivre. Eh bien, notre roi nous donne aussi une manière de vivre qui soit digne de lui. Est-ce que Christ est mon roi ? Est-ce que je chante Alléluia parce que vraiment, il est entré dans son règne en commençant à régner sur mon cœur. En commençant à régner sur les cœurs des frères et sœurs de l'Église. Est-ce que je me réjouis quand je vois des frères et sœurs en Christ qui réellement placent Jésus-Christ comme le roi de leur quotidien, de leur journée, de leur semaine? Alors le règne commence également par ces noces de l'agneau. Et il est dit, réjouissons-nous, soyons dans l'allégresse, donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues. Son épouse s'est préparée. Nous avons besoin de lire à cet égard deux textes. Éphésiens 5. Éphésiens chapitre 5, au verset 25. Ici, des instructions sont données quant au couple, mari et épouse. Mais voilà que notre texte va aller plus loin en prenant l'exemple de Christ et de l'Église. Il dit, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. En Apocalypse 19, nous voyons cette épouse à qui il a été donné d'être revêtue de fin lin, qui sont les œuvres justes des saints. Oui, l'Église, Christ la travaille, Christ la nettoie, Christ la sanctifie par sa parole pour que nous lui soyons présentés jusqu'au jour où il nous fera paraître devant lui pour les noces de l'agneau. Une église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Et il le fait avec amour. C'est de cette manière qu'il nous aime. Amen. Et nous voyons comment Christ, au verset 29, nourrit l'église, en prend soin. C'est pour les époux, envers les épouses, mais comme Christ le fait pour l'Église. Et les deux deviendront une seule chair. Il dit, mais ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. Nous avons ici, oui, un mystère grand qui est vraiment cette relation entre cet agneau et l'épouse de l'agneau. Et c'est curieux pour nous de comprendre que, en tant que membres du corps du Christ, nous sommes l'épouse de l'agneau. Mais pas encore l'épouse qui a fêté les noces, mais nous sommes fiancés. Nous allons en 2 Corinthiens. 2 Corinthiens 11. Mais une fiancée qui a besoin d'être travaillée par le Seigneur, d'être sanctifiée pour paraître pure, sans tache, irréprochable. 2 Corinthiens 11. Paul est assez... Le mot m'échappe, mais pas virulent. Oui, un peu virulent, un peu... Et il dit, je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu. Je suis jaloux de vous d'une jalousie de Dieu parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Formidable, n'est-ce pas ? vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. » Et il parle à l'Église. Toutefois, verset 3, « De même que le serpent séduisit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Cette fiancée que nous sommes pour Christ, est-ce que nos pensées, nos affections, notre cœur, alors que nous sommes rachetés par le Seigneur, est-ce que notre affection se refroidit? On l'a vu dans les lettres aux églises, perdre son premier amour, etc. Il y a des dégringolades, mais craignons, frères et sœurs, soyons sobres, soyons vigilants, craignons que nos cœurs, nos pensées ne se détournent de Christ. Il dit, je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une vierge pure. Et nous aurons le bonheur de fêter ces noces de l'agneau, et nous terminerons par la lecture toute simple d'Apocalypse 19. Après ces quatre Alléluia qui nous rappellent pourquoi est-ce que mon cœur chante ? Parce que Dieu est celui qui juge avec vérité et justice, parce qu'il est entré dans son règne. Alors que se passera-t-il après ? Eh bien, au verset 11, nous voyons « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. » Celui qu'il montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu, sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaissait si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Et il les pètera avec une verge de fer. Et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère du Dieu Tout-Puissant. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit « Roi des rois et Seigneur des seigneurs ». Et je vis un ange qui se tenait dans le soleil. Il cria d'une voix forte disant à tous les oiseaux qui volaient au milieu du ciel « Venez, rassemblez-vous pour le grand festin de Dieu afin de manger la chair des rois, la chair des chefs militaires, la chair des puissants, la chair des chevaux et de ceux qui les montent, la chair de tous, libres et esclaves, petits et grands. Et je vis la bête, les rois de la terre et leurs armées rassemblés pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise. Et avec elle, le faux prophète, qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l'étang ardent de feu et de soufre, et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le cheval, et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Et c'est ici la grande victoire de l'agneau sur un monde complètement destructeur, corrompu, qui tenait captive tant d'âmes. Tant d'âmes, nous le verrons, dont beaucoup n'ont pas pris la marque de la bête et adoré son image, et qui vont être introduits par l'agneau dans son règne, pour le connaître. Alors, louons le Seigneur et interrogeons-nous sur nos raisons de le louer, pour que nos raisons de le louer en le connaissant mieux nous remplissent d'une joie plus profonde. Non pas simplement pour des bénédictions terrestres et matérielles, où nous avons des actions de grâce à faire monter, mais que ce soit bien plus profond et que notre louange prenne son ancrage également dans les temps à venir, dans la conclusion que notre roi va donner à toutes ces choses si tristes que nous voyons se dérouler tous les jours autour de nous et sur cette terre. Prions. Merci Seigneur pour ta victoire, merci parce que tu es celui qui est fidèle, véritable, tu es la parole de Dieu, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et nous voulons louer l'Éternel, alléluia, parce que tu es entré dans ton règne et parce que tes jugements sont véritables et justes et que tu les accomplis. Seigneur, nous voulons te demander de nous aider à prendre conscience de notre merveilleuse destinée en tant qu'épouse, prendre conscience de ces noces de l'agneau, prendre conscience que nous sommes ta fiancée et nous ne voulons pas, Seigneur, nous voulons être vigilants de ne pas être comme Ève qui fut séduite, dont la pensée et le cœur se sont détournés, mais nous voulons que notre cœur reste attaché et nos pensées restent attachées, fixées sur toi avec vigueur, avec affection, avec plénitude. Alors, aide-nous à être vigilants, à veiller sur nous-mêmes et à voir notre vie ici, non pas comme simplement une vie d'êtres humains qui sont là et qui se conduisent peut-être au mieux pour te faire honneur, mais bien plus profondément, comme celle que tu aimes de tout ton cœur, cette fiancée, cette épouse que tu chéris, que tu et envers laquelle tu agis. Alors, Seigneur, que nous soyons une fiancée qui entend la voix de l'époux, du fiancé, et qui répond avec tendresse, et qui répond avec pureté, avec sainteté, sans tache, ni ride, et irréprochable. Tu nous as donné les moyens, Seigneur, de l'être. C'est toi qui nous revêt de fin lin. Ce ne sont pas nos œuvres à nous, mais c'est toi qui les rend possibles dans notre vie. Alors aide-nous à évaluer là où nous en sommes pour progresser et te faire honneur et gloire. Et c'est en ton nom que nous prions. Amen. Les annonces pour la semaine, alors. Jean-Denis, est-ce que cette semaine, tu as un endroit prévu pour les réunions de prière chez quelqu'un? Non. Chaque semaine, ça change d'endroit. Alors, cette semaine, si vous voulez que Jean-Denis et d'autres viennent prier dans votre maison, portez-vous candidat. Appelez Jean-Denis, dites, bah, écoute, je suis libre jeudi soir à 22h30. Est-ce que tu veux venir prier à la maison? Vous me comprenez, hein? Ayez cette liberté de dire, voilà, j'aimerais que tu passes et on peut prier ensemble. Et d'autres se joindront. Jean-Denis donnera le rendez-vous aux uns aux autres. Nous nous retrouverons vendredi, ici même à 18h, pour notre réunion d'études bibliques et de prière. C'est Jean-Denis qui l'animera complètement, il n'est pas encore au courant. Mais je ne serai pas là, je ne pourrai pas être là vendredi prochain, donc c'est Jean-Denis qui fera. D'autres annonces, alors je m'adresse aux parents, hein, pensez que l'été arrive, là il est temps de faire vos inscriptions aux colonies de vacances, d'envoyer vos bulletins d'inscription, si vous ne les avez pas, demandez-les nous. La plupart ici partent en colo en août, pour le mois d'août, colo d'août. Enfin, si vous voulez vous inscrire pour juillet, allez-y.